Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour, parce que on s'est déjà vu depuis ce matin pour pas mal d'entre vous. Et bienvenue, bienvenue à chacun aussi à l'église de Saint-Maur. Et c'est l'occasion, effectivement, durant ce moment, de pouvoir être particulièrement à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire dans ce texte de Marc chapitre 8. Pour moi, c'est un miracle. Raconte Barbara, une femme d'une cinquantaine d'années qui avait perdu la vue à cause d'une maladie génétique. Elle s'est fait opérer en 2013 et a reçu un implant qui lui a permis de retrouver partiellement la vision. Vous savez, aujourd'hui, avec les moyens qui sont les nôtres, nous pouvons vraiment réaliser des choses incroyables pour permettre même à ceux qui avaient perdu la vue de retrouver au moins en partie la faculté de voir. Et pourtant, ce que cette femme considère comme un miracle n'est finalement pas comparable à ce que nous lisons dans les évangiles. Quand un aveugle se présentait à Jésus, le Seigneur lui redonnait la vue instantanément, sauf dans le texte de cet après-midi. Jusqu'au chapitre 8 de l'évangile de Marc, nous lisons que Jésus enseigne la foule et ses disciples. Nous lisons que Jésus guérit des malades en nombre, que Jésus chasse des démons sans difficulté, que Jésus rencontre aussi de l'opposition de la part des autorités religieuses. Et James Packer, qui était un auteur chrétien, un théologien, disait à propos du Jésus de l'évangile de Marc qu'il donnait l'impression d'être un homme d'action, un homme qui transforme les situations. Jésus, un homme d'action, un homme qui transforme les situations. Et effectivement, le texte de cet après-midi que nous allons voir ne fait pas exception. Jésus est effectivement un homme qui transforme les situations, qui permet par exemple à un aveugle de voir. Mais comme nous allons le remarquer aujourd'hui et dans les semaines à venir, ce Jésus si puissant est aussi celui qui va souffrir. Chez Marc, nous avons ce double trait de la personne de Jésus, un Messie qui est puissant, grosso modo la première partie de l'évangile de Marc, et un serviteur souffrant, la deuxième partie. Un Messie puissant, mais aussi un serviteur souffrant. Et c'est précisément au chapitre 8 que nous basculons dans cette deuxième partie. Alors je vous propose d'écouter ensemble la parole de Dieu en Marc chapitre 8, les versets 22 à 26. Ils, c'est-à-dire Jésus et ses disciples, se rendirent à Bethsaïda. On lui amena un aveugle et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda: Vois-tu quelque chose? Il ouvrit les yeux et dit: Je vois des hommes, mais comme des arbres, et ils marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il était rétabli et voyait tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant: Ne rentre pas au village. Quand certains d'entre vous ont étudié ce texte dans les groupes de maison, vous vous êtes sans doute posé pas mal de questions à ce sujet. Par exemple, pourquoi cette guérison se passe en deux temps? Pourquoi l'aveugle ne retrouve-t-il pas parfaitement la vue du premier coup, comme nous le lisons dans d'autres récits de ce genre? Autre question, quelles sont les applications pour nous? Ou encore, pourquoi Jésus demande-t-il à l'aveugle de ne pas entrer dans le village? Et nous pouvons encore ajouter cette question. Pourquoi Marc raconte-t-il cette scène à ce moment de l'évangile? Pourquoi Marc raconte-t-il cet épisode à ce moment, au chapitre 8 de l'évangile? C'est aussi une question que nous pouvons nous poser. Et c'est pour cela que je vous propose de répondre à toutes ces questions que j'ai énumérées en trois temps. Premièrement, Nous allons nous intéresser à ce récit où Jésus guérit un aveugle. Deuxièmement, nous allons regarder quel est le lien entre ce récit et ce qui est avant ce récit. Et puis troisièmement, eh bien, nous allons voir quel est le lien entre ce récit et ce qui est après ce récit. Ça va, c'est simple comme plan? Alors commençons par le miracle en lui-même. Et si on observe au début, ben, qu'est-ce qu'on observe? On observe que Jésus et ses disciples sont à Bethsaïda. Bethsaïda, si je vous montre une carte, c'est à peu près au nord du pays, en Israël. C'est près de la Galilée. La Galilée, c'est ce qui est en violet sur la carte. Et c'est près de Capernaum. Et Capernaum, on connaît un petit peu parce que dans Marc, Jésus passe pas mal de temps à Capernaum. Donc les deux villes, ou en tout cas ce petit village de Bethsaïda, est très proche de Capernaum, est très proche de la Galilée. Et pourtant, même si nous ne sommes pas en Galilée, Jésus semble connu. Là où il arrive, les gens viennent à lui, le sollicitent, et comme ici dans notre texte, lui amènent quelqu'un qui a besoin d'être guéri. Alors, nous ne savons pas si cet homme était aveugle de naissance, ou bien s'il l'est devenu. Mais remarquez que ces gens qui accompagnent cet homme aveugle demandent à Jésus de le toucher. Vous avez fait attention à cela ? On lui amena un aveugle et on le supplia de le toucher. Et sans doute que ces gens ont appris que Jésus guérissait des malades simplement en les touchant. Et nous avons même vu dimanche dernier que Jésus guérit sans avoir besoin de toucher une personne infirme. Il suffit qu'il donne un ordre et cette personne peut guérir. Mais là, les personnes précisément font cette demande claire que Jésus puisse toucher cet homme et sous-entendu qu'il puisse le guérir. Alors observons ce que Jésus fait au verset 23 notamment. Eh bien on voit qu'il prend l'aveugle par la main, on voit qu'il met de la salive sur les yeux et qu'il lui impose les mains. Au verset 25, on voit qu'il lui met de nouveau les mains sur les yeux. Geste de compassion, geste qui rassure, Jésus prend cet aveugle par la main. Geste qui accompagne la guérison, Jésus touche les yeux de cet homme. Et nous pouvons être étonnés par le procédé parce qu'il emploie sa salive pour ça. Mais Jésus va dans le sens de la demande qui lui a été faite. On lui a demandé de toucher cet homme, il le fait. Et le plus surprenant pour nous, c'est que Jésus doit s'y prendre à deux fois. Il le fait une première fois, verset 23, et il le fait une deuxième fois, verset 25. Et en effet, quand Jésus demande à cet homme s'il voit quelque chose, eh bien l'homme répond tout bonnement, « Je vois des hommes, mais comme des arbres, et ils marchent. » Aujourd'hui, nous dirions qu'il voit flou. Nous dirions, notamment pour celles et ceux d'entre nous qui sont myopes, on comprend très bien cette situation, ce que signifie voir flou. Si je devais, moi, me promener sans mes lunettes et que je vous croise un jour dans la rue, il se peut que je passe à côté de vous sans vous reconnaître. Alors, ça ne signifie pas que je vous vois comme des arbres, mais c'est parce que je vois flou. Et je pense que celles et ceux d'entre nous qui comprennent ce sentiment-là, ils peuvent savoir ce que c'est que de voir flou. Et sans doute que chez cet homme-là, dans notre texte, ça devait être encore plus flou, parce qu'il avait l'impression de voir des arbres. Et Jésus recommence l'opération. Et cette fois-ci, lorsque Jésus pose de nouveau ses mains sur cet homme, sur ses yeux, il n'y a pas de doute sur le résultat. Cet homme qui était aveugle se met à voir clairement, 10 sur 10 à chaque œil. Et regardez avec moi comment Marc insiste sur le miracle. Verset 25. Quand l'aveugle regarda fixement, il était rétabli et voyait tout distinctement. Marc, par trois verbes différents, et c'est pour ça que j'ai mis ces verbes en grec, notamment pour vous le montrer, par trois verbes différents, souligne que cet homme est complètement guéri. Il pouvait le dire en un seul mot, mais il décide de le dire en trois mots. En trois verbes. Et enfin, pour des raisons qui ne nous sont pas données, eh bien, Jésus a opéré ce miracle hors du village en toute discrétion. Et c'est pourquoi il demande à cet homme de ne pas retourner au village. Jésus veut garder la discrétion. Et vous savez, si vous avez lu un petit peu les évangiles, que parfois, quand Jésus fait ce genre de recommandation à des personnes qu'il vient de guérir, il n'est pas toujours écouté. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? Des foules viennent à lui. Et à ce moment-là, et comme à chaque fois que Jésus opte pour la discrétion, Jésus ne veut pas créer de bain de foule. Jésus ne guérit pas pour attirer les foules. Mais quand Jésus guérit, il montre par ce miracle que le royaume de Dieu est là. Il montre qu'aucune conséquence du péché ne peut lui résister, ni la maladie, ni la mort. Par la guérison, Jésus montre qu'il est venu pour contrer le mal. C'est incroyable ça. Si vous faites attention au miracle qu'il opère, il est venu pour contrer le mal. Et aucune conséquence du péché ne peut lui résister, ni la maladie, ni la mort. Quand les malades viennent à lui, quand des personnes possédées même par un esprit impur viennent à lui, ils finissent tous par être guéris et libérés, sans exception. Rien ne résiste à notre Seigneur. Et je lis simplement ce verset du chapitre 6 de l'évangile de Marc. Nous lisons ceci dans Marc chapitre 6, verset 56. « Partout où il arrivait, on parle de Jésus, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. » Tous ceux, vous lisez bien, tous ceux qui le touchaient étaient guéris, sans exception. Et nous devons bien souligner le caractère unique de cette période de l'histoire. Je ne dis pas que Dieu ne guérit pas aujourd'hui, mais à l'époque où Jésus était là, c'était vraiment extraordinaire. Que ce soit lui qui touche les autres ou que les autres le touchent, les gens étaient guéris. Il me semble qu'aujourd'hui, nous ne vivons pas cela. La période où Jésus a vécu est une période unique dans l'histoire. Et comme vous le voyez dans notre texte, c'est Jésus en personne qui touche l'aveugle. Et cet homme guéri de sa cécité a été l'un des heureux bénéficiaires de la compassion de Jésus lorsqu'il était sur terre. Et aujourd'hui, si nous voyons encore des guérisons miraculeuses, nous pouvons louer le Seigneur qui continue de manifester sa compassion. Et dans les années précédentes, je sais que, notamment dans cette église, vous avez parfois prié pour certaines personnes et que le Seigneur a opéré de manière miraculeuse leur guérison. C'est vrai ou pas? Et quand le Seigneur ne le fait pas pour des raisons qui lui appartiennent, n'oublions pas que nous avons une espérance exprimée dans ce verset, en Apocalypse chapitre 21, verset 4. Cette espérance qui nous dit qu'il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Même si le Seigneur ne guérit pas de nos jours, dans certaines situations, un jour, la maladie ne sera plus. Un jour, la mort ne sera plus. Et c'est ça notre espérance. Alors cet après-midi, lorsque nous lisons ce récit de la guérison de l'aveugle, soyons émerveillés. Soyons émerveillés devant ce que Jésus était capable de faire. Il redonne la vue à un aveugle. C'est totalement différent de ce qu'a vécu Barbara, vous savez, la femme dont je vous ai parlé au début. Et gardons foi que dans le fait que le Seigneur guérit encore aujourd'hui. Et gardons l'espérance qu'un jour, Dieu mettra fin à toute souffrance et à toute maladie. Et là, je pourrais arrêter mon message. C'est vrai, non? J'ai déjà dit un certain nombre de choses. Je pourrais arrêter mon message, mais je n'aurais pas répondu à cette question. Pourquoi cette guérison rapportée par Marc se déroule en deux temps? Parce que c'est un fait assez unique. Vous pouvez chercher dans la Bible, c'est le seul texte qui nous parle d'une guérison en deux temps. Eh bien, pour y répondre, je vous propose de regarder ce qui est avant notre texte, ce qui précède notre texte. Ce qui s'est passé avant le verset 22, ce qui s'est passé même avant le chapitre 8. Le miracle en lien avec ce qui précède. Et je veux d'emblée le souligner, le risque que nous prenons lorsque nous étudions un texte dans la Bible, pour une étude biblique, ou pour, dans mon cas, pour une prédication, eh bien, c'est d'isoler ce texte de son contexte. De ne pas faire attention à ce qui est autour du texte. Et pourtant, c'est bien le contexte qui nous permet de comprendre pourquoi Marc, à ce moment de son évangile, a placé ce texte. Donc, on a besoin de voir ce qui était avant, mais aussi, tout à l'heure, ce qui est après. Alors, qu'est-ce qu'il y a avant le chapitre 8 ? Chez Marc, en particulier, plus que chez les autres évangélistes, nous lisons beaucoup de récits de guérison, surtout dans les 8 premiers chapitres. Et plusieurs commentateurs relèvent que ce récit de la guérison de l'aveugle, dont on est en train de parler aujourd'hui, ressemble beaucoup à une autre guérison, racontée au chapitre 7. Et je vais lire le texte, et vous allez repérer les points communs entre le texte que je vais lire et celui que nous avons étudié à l'instant. Ça va ? Donc c'est le jeu, non pas des 7 différences, mais des ressemblances. Jésus quitta la contrée de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant la contrée de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le supplia de lui imposer les mains. Il le prit à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec de la salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommandait, plus il publiait la nouvelle. Alors, est-ce que vous avez trouvé les points communs entre les deux textes ? Est-ce que vous avez vu des similitudes, des choses qui ressemblent ? La salive. Alors, ça marque Samuel, donc la salive. Alors, je passe en revue tous ces détails. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on lui amène un sourd, comme on a amené un aveugle. On lui demande de le toucher, de lui imposer les mains. Jésus le prend à l'écart, comme il l'a fait pour l'aveugle, loin de la foule. Jésus le touche, lui met les doigts dans les oreilles, lui touche la langue avec, effectivement, la salive. Et puis, le miracle s'opère, donc là, ça se fait instantanément, mais le miracle s'opère, ses oreilles s'ouvrent, sa langue se délie, et il se met à parler. 3 verbes pour décrire le miracle qui s'opère. Et puis, vous remarquez aussi, cette similitude, c'est que Jésus recommande de ne pas en parler, de rester discret. Ça va ? Ça vous convainc ? Donc on a 2 textes qui, dans les détails, ont des similitudes, des points communs. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est que Jésus guérit les sourds et qu'il guérit les aveugles. C'est ça que nous pouvons en déduire. Alors je n'en dis pas plus et nous allons maintenant revenir au chapitre 8. Donc ça, c'était le chapitre 7. On va revenir au chapitre 8 et regarder ce qui se passe juste avant notre texte. Ça va ? Vous êtes avec moi ? Le chapitre 8 commence par la scène de la multiplication des pains. Alors, est-ce que... Donc, la scène de la multiplication des pains. Jésus voit la foule, il a compassion de cette foule qui est restée 3 jours avec lui. Alors, il décide de les nourrir. Et en fait, c'est déjà la 2e fois dans l'évangile de Marc que Jésus opère ce miracle, mais cette fois-ci pour 4000 hommes. Après ce moment, Jésus et ses disciples reprennent la mer et ils arrivent à un autre endroit. Des pharisiens demandent à Jésus de faire un signe qu'il vient du ciel. Et vous savez comment Jésus réagit à ce genre de demande. Eh bien, Jésus n'a rien à leur prouver et s'en va de nouveau en mer. Et écoutez maintenant ce qui se passe durant la traversée. Donc là, le texte que je vais lire, c'est le texte qui est immédiatement avant la guérison de l'aveugle. D'accord ? Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Jésus s'en rendit compte et leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous parce que vous n'avez pas de pain ? Vous ne saisissez et ne comprenez pas encore. Avez-vous le cœur endurci ? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas, lorsque j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 personnes, hommes, combien de paniers pleins de morceaux vous avez emportés ?» 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? 7, dirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore ? Alors, est-ce que vous avez compris ? Jésus fait des reproches à ses disciples parce qu'ils sont lents à comprendre. Et Jésus multiplie ici, comme vous le voyez, les questions. Et ce qui doit attirer notre attention en particulier, et vous l'avez peut-être remarqué, c'est le verset 18. Jésus parle de leur cœur endurci. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Après tous les miracles que Jésus a accomplis, et en particulier les 2 multiplications des pains, eh bien les disciples semblent toujours dans l'incertitude au sujet de l'identité de Jésus. Ils s'inquiètent de ce qu'ils n'ont pris qu'un seul pain et oublient ce que Jésus peut faire. Oublient ce que Jésus peut faire en tant que Messie, en tant que Fils de Dieu. Non, les disciples ont beau avoir des yeux et des oreilles, ils ne voient pas et n'entendent pas. Ils ont beau vivre avec leur maître, jour après jour, ils ne voient pas, ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Et maintenant que je reviens aux 2 récits de guérison que nous avons évoqués, pour le sourd et pour l'aveugle, nous constatons, à la lumière de la situation des disciples, que le problème se situe à leur niveau, au niveau des disciples, et que Jésus est le seul à pouvoir les guérir, comme il l'a fait pour le sourd, comme il l'a fait pour l'aveugle. Le problème des disciples n'est pas d'ordre physique. Ils voyaient bien et ils entendaient bien physiquement, mais il est d'ordre spirituel. Et Jésus leur reproche de ne pas comprendre, de ne pas voir spirituellement qui il est. Et nous comprenons alors que notre texte, en Marc chapitre 8, versets 22 à 26, est une illustration de ce que Jésus va faire pour ses disciples. Jésus guérit l'aveugle comme il compte guérir ses disciples. Et certains commentateurs parlent de cette guérison comme d'un acte prophétique, censé faire comprendre aux disciples que eux aussi, ils ont besoin d'être guéris de leur aveuglement. Et comme pour l'aveugle, eh bien Jésus va s'y prendre à plusieurs reprises pour ses disciples, jusqu'au rétablissement complet. Jésus va leur permettre de voir plus clair. Jésus va leur permettre de comprendre qui il est vraiment. Et comme le soulignent les commentateurs, eh bien les disciples comprendront vraiment après la résurrection de Jésus. Le processus de guérison prend du temps, mais notre maître Jésus a été tellement patient avec ceux qu'il a choisis. Le seul, et c'est sans doute ça la vérité qu'on veut retenir de notre texte, le seul qui puisse redonner la vue physique comme spirituelle, c'est Jésus. Et très concrètement, cela signifie que si nous voulons effectivement que nos proches qui ne connaissent pas le Seigneur puissent voir, nous devons demander au Seigneur qu'il ouvre leurs yeux. Puisque Jésus est le seul qui puisse redonner la vue. Aucun d'entre nous ne peut rendre la vue à des aveugles, mais Jésus le peut. Et lorsque nous avons ces occasions de parler de Jésus, Eh bien, prions intérieurement que Jésus leur ouvre les yeux. Nous ne pouvons pas le faire, mais Jésus le peut. Et cela me rappelle ce que nous lisons dans le livre des Actes. Vous savez, l'histoire de Lydie, ça vous dit quelque chose ? Actes chapitre 16, versets 13 à 14. Le jour du sabbat, donc c'est Luc qui raconte cela, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Et ce qui importe pour moi ici, dans ce verset-là, bien sûr, c'était une femme qui craignait Dieu déjà, mais qui ne connaissait pas encore l'Évangile. Et vous voyez au verset 14, elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. C'est le Seigneur qui ouvre le cœur, c'est le Seigneur qui ouvre les yeux. Nous parlons, mais c'est le Seigneur qui opère ce miracle. Et pour ce problème d'endurcissement, pour ce problème d'aveuglement, seul le Seigneur peut opérer un miracle. Personne d'autre sur la terre, aucun médecin, aucun chirurgien, aucun pasteur ne peuvent faire un tel miracle. Seul le Seigneur Tout-Puissant. Et soyons sûrs aussi que si la guérison se fait progressivement, la guérison sera complète. Parce que Jésus ne laisse pas un homme ou une femme voir flou, spirituellement parlant. Nous avons donc rattaché notre texte à ce qui précédait. Et nous avons compris qu'il y avait un lien avec l'aveuglement des disciples. Voyons à présent, pour terminer, et puis pour vérifier notre interprétation, le lien entre notre texte et ce qui suit. Donc nous avons déduit effectivement que cette guérison en deux temps, en plus d'être en soi un miracle extraordinaire, sert d'illustration pour ce que Jésus va effectivement faire pour ses disciples aveuglés. Et donc il s'agit pour nous de vérifier si après, c'est bien ce qui est en train de se passer. Alors qu'est-ce qui se passe après le verset 26 de notre texte ? Eh bien immédiatement après, Jésus pose la question à ses disciples. « Qui dites-vous que je suis ?» Eh bien, sans hésitation, Pierre répond, « Tu es le Christ. » Réponse correcte. Les disciples commencent donc, déjà, là, à cheminer dans la bonne direction. Mais, parce que ce serait trop facile, mais alors que Jésus commence à leur annoncer qu'il va souffrir, qu'il va mourir, mais aussi qu'il va ressusciter, eh bien, Pierre se met à lui faire de reproches. Et la réponse de Jésus ne tarde pas. Verset 33 du chapitre 8, « Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples. » Donc c'est important de mentionner qu'il regarda ses disciples. « Fit des reproches à Pierre et lui dit, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Et là, on se dit que, en fait, la vision de Pierre et de ses compagnons n'est pas encore totalement nette. Ils voient que Jésus est le Christ, mais ils ne veulent pas que le Christ puisse mourir, puisse aller souffrir. Eh bien, Jésus reprend sévèrement Pierre. Si on regarde un petit peu les chapitres d'après, qu'est-ce qu'il y a dans le chapitre 9 et le chapitre 10 ? Eh bien, dans le chapitre 9, un autre jour, Jésus et trois de ses disciples vont sur une montagne. Jésus va leur permettre à ces trois disciples, que sont Pierre, Jacques et Jean, de voir et d'entendre. D'abord de voir Jésus transfiguré dans une blancheur éclatante. Et puis d'entendre la voix du Père qui leur dit ceci, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Donc il y a les oreilles. Donc ses disciples ont l'occasion de voir et d'entendre. Une occasion encore de pouvoir comprendre qui est Jésus. Et plus loin dans ce chapitre 9, eh bien Jésus annonce de nouveau qu'il va mourir et qu'il va ressusciter. Et nous lisons au verset 32, « Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de le questionner. » De nouveau, on constate que les disciples voient flou. Ils voient une partie, mais pas totalement. Pourtant, c'est la deuxième fois que Jésus leur annonce qu'il va mourir et qu'il ressuscitera. Ça va ? On passe au chapitre 10 ? Et je vous rassure, on s'arrêtera au chapitre 10. Au chapitre 10, Jésus et ses disciples se rapprochent de Jérusalem. Et comme les autres fois, eh bien, Jésus leur annonce qu'il sera livré aux hommes qui le condamneront à mort, qui le feront mourir et qu'après 3 jours, il ressuscitera. Et les versets qui suivent montrent de nouveau que les disciples ont encore du chemin à faire. Parce que voilà que Jacques et Jean demandent à Jésus s'ils peuvent être à sa droite et à sa gauche quand il sera dans sa gloire. Comme si c'était vraiment le moment de demander ce genre de choses, alors que leur maître vient de leur dire qu'il va souffrir et mourir. Et Marc raconte que les 10 autres disciples étaient indignés contre les fils de Zébédée. Et Jésus leur donne cette leçon. Versets 43 et 45 du chapitre 10. « Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ça, c'est la leçon du maître à ses disciples. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et en fait, ce n'est pas fini. Pour vraiment vous convaincre, si vous n'êtes pas convaincu jusque-là, cette section qui va du chapitre 8 au chapitre 10 se termine avec une scène intéressante et qui n'est pas sans rapport avec le texte d'aujourd'hui. Jésus et ses disciples, avec une grande foule, sortent de Jéricho. Et quelqu'un interpelle Jésus. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et il insiste, alors que les gens lui demandent de se taire. Et Jésus finit par l'appeler. Et voici ce que nous lisons au verset 51 et 52 du chapitre 10. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Est-ce que vous voyez ce qui se passe ici ? C'est le deuxième texte qui mentionne un aveugle. Et contrairement à la première fois ici, Jésus guérit instantanément cet homme. En fait, il y a eu une évolution. Une évolution depuis le chapitre 8. Alors c'est sûr, à ce stade-là, les disciples ne saisissent pas encore tout, mais ils ont progressé. Ou plutôt, Jésus les a fait avancer. Et en passant en revue tout ce qui se passe entre le chapitre 8 et le chapitre 10, cette section encadrée par ces deux récits qui nous racontent la guérison d'un aveugle, eh bien nous voyons l'intention de Jésus. L'intention de Jésus de faire comprendre à ses disciples, d'ouvrir leurs yeux et d'ouvrir leurs oreilles sur la nature de sa mission. Il est venu pour donner sa vie pour des pécheurs. De pouvoir ouvrir leurs yeux et leurs oreilles sur l'identité de sa personne. Il est le serviteur souffrant. Il n'est pas que le Messie puissant, il est le serviteur souffrant aussi. Lorsqu'on voit la parole de Dieu de cette manière-là, on se dit que rien n'est dû au hasard. Et que si Marc a placé son texte au chapitre 8, il l'a fait avec intention, bien sûr inspiré par le Seigneur. Le Seigneur est aussi patient avec nous. Bien souvent, nous sommes aussi lents à comprendre et rapides pour douter. Et Jésus nous a demandé de le suivre. Et nous avons compris ce que cela signifie. Mais dans la pratique, nous sommes parfois si inconstants dans notre engagement. Donc, d'un certain côté, cela montre que nous n'avons pas bien compris. Nous savons qui est Jésus, nous savons qu'il est le Seigneur, nous savons que Jésus est vraiment le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour nous. Et pourtant, nous, et je m'inclus dans ce « nous », vivons par moments comme si nous n'avions pas compris cela. Nous sommes si lents à comprendre et si rapides pour douter. Si Jésus est le Seigneur, si Jésus est mon Sauveur, celui qui est venu donner sa vie en rançon pour nous, alors ma vie est forcément différente. Ma vie est forcément radicalement différente de celles et ceux qui ne le reconnaissent pas comme Seigneur et Sauveur. Forcément. Si j'ai compris quelque chose de cette vérité-là, ma vie est radicalement différente de celle de ceux qui m'entourent et qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous marchons encore parfois comme des gens qui voient flou. Mais heureusement, Jésus ne nous abandonne pas, parce que lui seul est capable de nous donner une vision claire à son sujet. Mais la question est de savoir si toi tu le veux. Et tu peux répondre, non, je préfère rester dans le flou. Ou bien plutôt, Seigneur, donne-moi d'avoir une vision plus claire de ta personne et de ton œuvre. Accorde-moi d'être émerveillé devant ta personne, à tel point que je ne veux pas vivre autrement que pour toi. Quelle est la prière que vous allez faire au Seigneur, à celui qui peut ouvrir les yeux des aveugles. Dans chacun des textes que nous avons abordés jusque-là dans notre série de prédications, il était question de Jésus. Et c'est normal puisque l'Évangile a été écrit à son sujet. Et ma prière est que par la lecture, par la méditation de ces textes, nous soyons progressivement conduits par l'Esprit de Dieu, à aimer encore plus le Jésus qui est présenté ici. Le monde dans lequel nous vivons ne nous attirera jamais à Jésus. Mais la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, nous y conduise. Alors je vous propose de terminer par la prière. Avec ce que l'apôtre Paul écrit. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Seigneur, c'est notre prière qu'au fur et à mesure que nous lisons l'Évangile, eh bien, nous nous sommes amenés à être toujours plus émerveillés par qui est Jésus. Oui, Seigneur, beaucoup d'entre nous, nous le croyons. Nous croyons qu'il est ton Fils, celui que tu as envoyé pour nous sauver. Et pourtant, cette compréhension est parfois insuffisante pour vivre en conséquence. Alors nous te demandons encore cet après-midi, accorde-nous Seigneur de voir plus clairement, de comprendre encore plus précisément qui tu es afin de comprendre qui nous sommes. Mais merci Seigneur, parce que c'est toi qui peux opérer ce miracle. Parce que c'est vraiment toi, Seigneur, qui peux ouvrir les yeux des aveugles. Et nous te prions aussi pour notre entourage, pour celles et ceux autour de nous qui sont aveugles spirituellement, qui sont sourds spirituellement. Eh bien, nous croyons que tu peux leur rendre la vue et l'audition. Nous croyons, Seigneur, que tu peux leur montrer très clairement qui tu es, de telle sorte qu'ils puissent croire en toi, de telle sorte qu'ils puissent accepter ce que tu as fait. Seigneur, nous voulons nous soumettre à toi encore une fois et te demander simplement, oui, révèle-toi à nous et montre-nous, Seigneur, tout ce que nous n'avons pas encore compris à ton sujet. Aide-nous, Seigneur, à mieux te connaître pour mieux vivre pour toi. Parce que toi seul, es digne que nous puissions te consacrer toute notre vie. Amen.